Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 2, 1 à 17. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, « Comment celui-là parle-t-il ainsi ?» Blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Oh! Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi, Lévi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à ta table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Les scribes, du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Psaume 103, 2 et 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. 1 Timothée 1, 15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier.
Vous sentez-vous capable, par vous-même, de comprendre ce que dit la Bible? Si Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, le Saint-Esprit n'éclaire pas ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. Il éclaire ceux qui s'attendent à lui. Et je suis totalement dépendant de lui, et je vous invite à l'être aussi. L'Évangile, selon Marc, est le journal de Pierre que Marc a mis par écrit. Ce journal contient de nombreux articles assez courts, pour la plupart, qui rappellent des situations vécues par l'apôtre le plus fougueux des douze. Même la façon de raconter ce qu'il a vécu souligne un de ses traits de caractère. Le terme « euthéos », qui peut se traduire par « aussitôt », « à l'instant », « au même instant », indique une intensité des événements. Et nous trouvons ce terme dans le chapitre 2 ou au verset 2. À l'instant où l'on apprend qu'il est à la maison, elle se remplit. Dans le verset 8, dès que les scribes pensent à quelque chose, Jésus le sait aussitôt. Il n'y a pas de délai. Et dans le verset 12, à peine Jésus a dit à l'homme paralysé de se lever, qu'il le fait aussitôt. Si j'ai pris ces quelques instants pour vous parler d'un mot que l'on trouve 40 fois dans les 16 chapitres de Marc, c'est pour vous montrer que même des détails peuvent nous enseigner sur l'intensité du ministère de Jésus, sur le caractère de celui qui rapporte l'événement, sur les capacités prodigieuses de Jésus qui, comme Dieu lors de la création, n'a pas besoin de temps pour que ce qu'il dise arrive. Cela arrive aussitôt. Même des détails peuvent nous enseigner sur l'intensité du ministère de Jésus, sur le caractère de celui qui rapporte l'événement et sur les capacités prodigieuses de Jésus qui, comme Dieu lors de la création, n'a pas besoin de temps pour que ce qu'il dise arrive, cela arrive aussitôt. Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur deux articles du journal de Pierre. Le premier article nous permettra de comprendre que Jésus a le pouvoir de pardonner. L'événement que Pierre a vu se déroule à Capernaum, sûrement dans sa maison où quelque temps auparavant Jésus avait guéri sa belle-mère. Les articles précédents nous permettent de comprendre que Jésus était parti prêcher dans toute la région la repentance et la foi car le royaume était proche. Il avait guéri un lépreux qui n'avait pas été discret comme il le lui avait demandé. Et ainsi, à chaque endroit où Jésus va, beaucoup de personnes viennent et il ne peut plus se déplacer facilement. Jésus revient à Capernaum, sûrement de manière à ce que personne ne le voie. Peut-être est-il rentré tard dans la maison. Mais dès que les gens sont au courant de sa présence, cela rue vers la maison où il se trouve. Et c'est là, dans cette maison où les gens sont entassés pour écouter Jésus, que se passe le premier événement duquel nous allons parler. Le deuxième article nous place dans une situation différente. Elle commence dehors, du côté de la mer, et Jésus appellera un homme qui l'invitera à manger chez lui. Mais les personnes influentes de son époque sont choquées par le genre de personnes présentes à la fête où Jésus accepte d'aller. C'est là que Jésus dira cette fameuse phrase « Ce ne sont pas les bien portants ou ceux qui sont en santé » qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Ainsi, nous comprendrons que Jésus pardonne aux pécheurs, à ceux qui le reconnaissent. Le titre de cette prédication est « Jésus pardonne les péchés des pécheurs ». Commençons par notre premier article du jour que j'intitule pour cette prédication « Jésus a le pouvoir de pardonner ». Alors, afin d'avoir le texte du journal de Pierre en tête, je vous propose de relire cet article dans Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors le contexte, ici, nous dit que Jésus est entré dans une maison. Dès que les gens le savent, ils envahissent la maison et Jésus les enseigne. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il voit une foule. Et il ne leur parle pas de n'importe quoi. Jésus annonce la parole. Et tous ceux qui entendaient parler de lui devaient être au courant que Jésus prêchait. Le résumé de son message devait d'ailleurs aussi être connu de tous. Marc l'a écrit dans le chapitre 1, au verset 15. Jésus disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le ministère principal de Jésus n'est pas de faire des miracles et guérir des gens, mais de prêcher l'évangile. Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Le ministère principal de Jésus n'est pas de faire des miracles et guérir des gens, mais de prêcher l'évangile. Et évangile veut dire « bonne nouvelle ». Lorsque des gens lui apportent un paralytique, il sait discerner ce qui est dans le cœur de ces hommes, et il répond au besoin le plus profond, et il dévoile son identité pour qui veut l'accepter, et profite d'enseigner, puisque c'est là son ministère principal. Et pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Église, corps de Christ, continue d'avoir pour mission principale d'annoncer la parole. Alors cela n'empêche pas de prendre soin, de soigner, d'aider les pauvres, mais ces actions secondaires ne devraient jamais empêcher l'enseignement de la parole. Mais comme je viens de le dire, l'Église accueille comme Jésus accueille le paralytique et ses amis. Parlons-en un peu justement du paralytique et de ses amis. Ces quatre hommes ont entendu parler de Jésus. Ils ont certainement entendu parler de son enseignement, et bien entendu, les guérisons opérées par Jésus les attirent aussi à lui, avec le paralytique. Et ces hommes ne voulaient pas simplement attendre que Jésus sorte de la maison. Ils ressentent une urgence d'aller vers lui. C'est tellement important pour eux qu'ils sont prêts à démonter le toit plat d'une maison pour présenter le paralytique devant Jésus dès que possible. Alors, avez-vous aussi parfois ce besoin impérieux de vous approcher de Jésus-Christ? C'est la foi qui pousse ces quatre hommes et ce paralytique à vouloir s'approcher de Jésus. Cette foi est plus que l'espoir d'être guéri, c'est une confiance placée en Jésus. C'est la foi qui pousse ces quatre hommes et ce paralytique à vouloir s'approcher de Jésus. Cette foi est plus que l'espoir d'être guéri. C'est une confiance placée en Jésus. C'est le désir de ce qu'il prêche. Ces hommes ont un cœur repentant qui brûle de désir d'amener le paralytique vers Jésus. Jésus, qui a cette capacité de voir dans le cœur, voit tout cela. Voilà pourquoi il l'a dit, Jésus voyant leur foi. C'est cette foi qui lui donne la liberté de pardonner, car Dieu ne pardonne aucun individu sans la foi repentante. Jésus voit dans ton cœur, et ô combien j'espère et je prie qu'il y voit la foi en lui, une foi repentante qui lui donne la joie de pardonner. La parole de Jésus est surprenante lorsque le paralytique se retrouve devant lui. Réfléchissons quelques instants à ce que dit Jésus et pourquoi il le dit. Jésus répond au besoin le plus profond. Il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors si quelqu'un qui manifestement a des pouvoirs divins, Jésus lui-même, vient vers vous maintenant et vous dit « Patrick, Raymond, ou Martin, ou Catherine, ou Mary, ou Samuel, ou Rui, ou Lauriane, ou enfin mettez-y votre prénom, et il continue en disant, tes péchés te sont pardonnés. Comment réagiriez-vous? Franchement, qu'est-ce que cela vous ferait? Alors celui qui a le cœur dur se dirait, mais pour qui se prend-il? De quoi se mêle-t-il? Ou simplement, laissez dire sans que cela ne remue un quelconque sentiment dans le cœur. Mais imaginez, une âme pure, plus aucune culpabilité, plus aucun regret, plus aucune pression ni de poids en lien avec des erreurs pécheresses passées, respirer à plein poumon, sans aucune gêne, une sensation de légèreté, de liberté pour celui qui reçoit cette parole avec foi. Le paralytique a-t-il été surpris des paroles de Jésus? Le texte ne le dit pas, ni Luc, ni Matthieu d'ailleurs, et nous ne voyons aucune protestation de sa part. Jésus, qui voit dans le cœur, répond au besoin le plus profond de cet homme. Oui, il désire être guéri physiquement, et nous le comprenons. Mais son corps va mourir. Et même si Jésus le guérit, il va mourir quand même. Alors que son âme est éternelle et a besoin de soins, de purification, de transformation. Jésus, encore aujourd'hui, répond à notre besoin le plus profond, ce besoin d'être pardonné, de recevoir une grâce pour ce que nous ne pouvons pas payer. Jésus, encore aujourd'hui, répond à notre besoin le plus profond, ce besoin d'être pardonné, de recevoir une grâce pour ce que nous ne pouvons pas payer. Mais en a-t-il vraiment le pouvoir? Les scribes, ceux qui connaissent les Écritures, se posent une question. N'est-ce pas Dieu seul qui peut pardonner les péchés? Pardonner le mal que l'on nous fait, d'accord, mais pardonner le péché lui-même. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est celui qui est lésé qui peut pardonner. Si ton frère frappe ta sœur, tu ne peux pas lui pardonner. Il ne t'a rien fait. Il a désobéi à Dieu et a causé du tort à ta sœur. Ta sœur peut lui pardonner pour les torts qu'elle a subis, et c'est Dieu qui lui pardonne son péché, s'il s'en repent. Et quand David a péché en commettant l'adultère avec Bathsheba et ensuite en faisant mourir son mari, lorsqu'il est mis face à son péché, il dit à Dieu, « J'ai péché contre toi seul. » Il a compris que son péché est d'abord contre Dieu. Nathan, lorsqu'il vient vers David, qui se repent, ne lui dit pas, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Non, il lui dit, « L'Éternel pardonne ton péché. » Ce qui souligne que le prophète n'a aucun pouvoir de pardonner, mais uniquement transmettre le message de l'Éternel, comme tout homme d'ailleurs. Le psaume 103, qui est un psaume sur le pardon, indique clairement que c'est l'Éternel qui pardonne et qui guérit, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Dieu seul peut pardonner, et sur ce point, les scribes ont raison. Mais alors, est-il vrai que Jésus blasphème? Si Jésus n'est pas Dieu, c'est effectivement un blasphémateur. Mais Jésus démontre aux scribes sceptiques qu'il a le pouvoir de pardonner. Donc, qu'il est Dieu. Il leur donne deux preuves. La première, Jésus connaît le raisonnement intérieur des scribes avant même qu'ils ne réagissent. Dieu seul a ce pouvoir. Jésus connaît le raisonnement intérieur des scribes avant même qu'ils ne réagissent. Dieu seul a ce pouvoir. Jésus avait d'ailleurs vu la foi du paralytique, alors que personne d'autre que Dieu ne peut voir notre cœur. Satan, qui est un fin psychologue, peut deviner beaucoup de choses par les réactions et les connaissances connues des personnes, mais il n'a pas le pouvoir de connaître le raisonnement intérieur d'une personne. Personne d'autre que le Créateur ne peut le connaître. Il n'est pas question de deviner ici. mais de connaître le raisonnement intérieur d'une de ses créatures. Alors cette première preuve, il n'y a que les scribes qui peuvent la valider, car eux seuls connaissent leur raisonnement dans leur cœur. La deuxième preuve est explicite. Jésus leur demande qu'est-ce qui est plus facile à dire. Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'en fait, le pardon des péchés n'a aucun effet visible pour tous les spectateurs sceptiques ou non. Alors que faire lever une personne qui ne peut pas marcher par une simple parole, cela a un effet direct, visible et vérifiable par les plus sceptiques. Le pardon des péchés n'a aucun effet direct visible pour tous les spectateurs sceptiques ou non, alors que faire lever une personne qui ne peut pas marcher par une simple parole, cela a un effet direct, visible et vérifiable par les plus sceptiques. Jésus dit donc au verset 10, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, » donc il parle de lui-même, « a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, » soyez attentifs, hein, ce que je vais faire est une preuve, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se lève, prend son lit et marche. Lorsque nous avions parlé de la guérison de la belle-mère de Pierre, nous avions parlé de 6 caractéristiques des guérisons de Jésus. Jésus guérit par un mot ou un geste, Jésus guérit instantanément, Jésus guérit complètement, Jésus guérit toutes les personnes qu'il veut, indépendamment de leur attitude, Jésus guérit toutes les maladies qu'il veut, Jésus ressuscite des morts. Et nous voyons ici un homme guéri sur une parole, instantanément, capable de porter son lit et marcher, comme preuve de son pouvoir de pardonner les péchés, et non en lien avec la demande ou la foi du malade. C'est une guérison divine qui manifeste la puissance de Dieu, et il le fait en son propre nom. Pierre a vu les amis détruire le toit de la maison. Il était possible que c'était la sienne, hein? Il a vu le paralytique placé devant Jésus, un homme incapable de se déplacer. Il a vu la guérison de cet homme qui prend son lit et qui sort de la maison. Et il nous le raconte comme témoin, afin que nous comprenions aujourd'hui encore en 2020 que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Oh, quelle bonne nouvelle! Il existe quelqu'un capable de répondre aux besoins les plus profonds de notre être, le pardon de nos péchés. Imaginez une personne qui a un sac à dos, avec dans son dos un cadenas qui l'accroche à elle et qu'elle ne peut pas atteindre. À chaque fois que cette personne fait le mal, un poids est déposé dans ce sac à dos. Et attention, à chaque bonne action, aucun poids n'est enlevé de son sac à dos, car il faut comprendre que faire le bien n'est pas prévu pour rattraper le mal, mais que faire le bien, c'est ce que nous devons normalement faire. Cela signifie que si nous pouvons faire le bien et que nous ne le faisons pas, un poids est déposé dans le sac à dos. Un sac qui devient terriblement lourd, que certains essaient d'oublier en s'asseyant, en ne bougeant plus, mais le sac continue à se remplir. Donner à manger à la personne qui a un tel sac est bien, mais cela ne l'aidera pas à se débarrasser de ce fardeau. Que lui faudrait-il? Eh bien, il lui faudrait la clé pour ouvrir le cadenas qui l'empêche d'enlever ce sac. Si ce sac est le péché, seul Dieu a la clé pour enlever ce cadenas, et il choisit de passer par la croix pour l'avoir. Dieu a le pouvoir de pardonner. Où irez-vous chercher le pardon pour vos péchés cette semaine? Oui, vous irez demander pardon à ceux qui vous ont fait du mal. C'est bien, mais ce n'est que traiter les conséquences. Le sac à dos reste. Car pécher, c'est désobéir à la loi de Dieu, et donc Dieu seul peut pardonner. Donc cette semaine, alors que tu auras crié sur ta maman, ton papa, ou ton enfant, ou ton conjoint, eh bien, demande-lui pardon, bien sûr. Et demande aussi pardon à Dieu, qui seul peut pardonner les péchés qui te pèsent et te condamnent pour l'éternité. Mais À qui Jésus pardonne-t-il? C'est le sujet du prochain article dans le journal de Pierre. Allons relire les versets 13 à 17 du chapitre 2 de Marc pour commencer ce deuxième point. Donc, Jésus pardonne aux pécheurs. Voilà le titre. Marc 2, 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, intéressons-nous d'abord au contexte, à qui est ce Lévi, hein, donc. Jésus passe par un bureau d'impôts. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Jésus, les impôts, c'était une mafia terrible. Les Romains imposaient des taxes. En Galilée, Hérode devait donc donner une certaine somme à Rome. Et comme Hérode voulait aussi s'enrichir, il demandait plus de taxes et en gardait une partie pour lui. Mais vous pensez bien que ce n'était pas Hérode qui allait chercher cet argent chez les gens pour taxer les déplacements, les achats, les ventes, les passages de route, etc. Il avait à sa solde des chefs, des percepteurs d'impôts, qui prenaient aussi leur part au passage, et ils employaient des collecteurs d'impôts, qui eux aussi gonflaient les taxes pour s'enrichir. Lévi est un collecteur d'impôts. Il fait partie de la mafia de la Galilée. Donc Lévi est un collecteur d'impôts, il fait partie de la mafia de la Galilée. Lévi devait connaître Jésus ainsi que son message, car Jésus avait déjà parcouru la Galilée et les nouvelles se transmettaient vite. Or comme nous venons de le voir un peu plus tôt, Jésus voit dans les cœurs. C'est pourquoi il appelle Lévi, sachant qu'il est prêt à le suivre. Mais pensez bien qu'en appelant Lévi à sa suite, Jésus ne se faisait pas une bonne réputation. Aucun rabbi n'aurait voulu un péager à sa suite. Il l'aurait plutôt chassé. Mais Jésus choisit Lévi, qui est appelé Matthieu aussi. Ce dernier réagit comme Élisée lorsqu'Élie l'avait appelé à devenir prophète. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi 19. En fait, il fait une grande fête et invite tous ses amis pour marquer son changement de vie. C'est un témoignage que Lévi rend en faisant cette fête, ce que les pharisiens ne comprennent pas. Les pharisiens, eux, ne voient que des péagers et des pécheurs. Alors que Lévi laisse tout pour suivre Jésus et l'annonce à tous ses collègues de la mafia locale. Jésus, en étant avec eux, ne les cautionne pas dans leur façon de vivre. Au contraire, il est là avec eux pour qu'ils puissent être libérés de l'esclavage de l'amour de l'argent. Et Lévi est un exemple de celui qui se détourne de l'argent pour suivre Jésus-Christ. Il est avec un péager, Lévi, qui ressemble à celui de la parabole que Jésus raconte en Luc 18, 9 à 14. Je vais vous le lire. Jésus dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur !» Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Les pharisiens ne voient pas de possibilité de salut pour les péagers. Ils ne voient pas de possibilité de salut pour les péagers, comme d'ailleurs pour peu de personnes en dehors de leur groupe. C'est un avertissement pour nous. Lorsque nous ne pouvons plus regarder chaque personne autour de nous avec l'espoir du changement de l'Évangile, c'est que nous ne comprenons plus l'Évangile, que nous n'en connaissons plus la puissance. Jésus entend les pharisiens et va leur répondre directement, alors que ceux-ci s'étaient adressés aux disciples. On arrive dans cette dernière section. À qui Jésus s'adresse-t-il avec compassion? Jésus leur fait une affirmation qui devrait tous nous faire réfléchir. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Celui qui ne se sent pas malade ne va pas chez le médecin, il n'en a pas besoin. Imaginez qu'une personne va chez le médecin et lui dit « Bonjour mon cher médecin, ce matin je me suis levé en pleine forme et je me sens bien, je me réjouis de vivre cette journée, pouvez-vous m'aider ?» Le médecin répondra sûrement « Oui, je peux vous aider en vous montrant la porte de sortie de mon cabinet, car vous n'avez pas besoin de moi. » Si vous pensez que vous n'avez pas fait trop de mal, que vous n'avez quand même pas tué quelqu'un, vous pensez que vous ne méritez pas le juste jugement éternel pour les pécheurs, bien vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ, puisque vous vous sentez juste sans lui. C'est que vous êtes comme les pharisiens. Par contre, si vous vous rendez compte que vous êtes pécheur, perdu pour l'éternité, car vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais payer pour vos fautes, si vous vous sentez pécheur et que vous aimeriez du fond de votre cœur être délivré, Jésus-Christ est venu pour vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes pécheur, perdu pour l'éternité, car vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais payer pour vos fautes, si vous vous sentez pécheur et que vous aimeriez du fond de votre cœur être délivré, Jésus-Christ est venu pour vous. Nous avons vu qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et maintenant nous voyons à qui il pardonne les péchés. À ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui vont vers lui. Comme celui qui se sent mal va chez le médecin en lui expliquant ses maux et en comptant sur ses soins. Alors te considères-tu comme bien portant ou malade spirituellement? En conclusion, j'aimerais simplement nous rappeler que Pierre nous raconte ses souvenirs pour que nous puissions comprendre deux choses aujourd'hui. La première, c'est que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Le paralytique marche et est rentré à la maison avec son lit sous le bras. Et deuxièmement, Jésus pardonne à ceux qui reconnaissent leurs péchés. Lévi va suivre Jésus, il va fêter pour marquer ce départ et sera fidèle jusqu'à la mort. Il savait que Jésus a pardonné ses péchés. Et Paul l'avait compris lorsqu'il dit « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. » Et toi, te sens-tu le premier des pécheurs, sachant qu'en dehors de Dieu, tu es le seul à connaître tous tes péchés? Prions. Éternel Dieu, nous sommes devant ta parole, en étant reconnaissants de pouvoir l'ouvrir et de compter sur l'œuvre de ton esprit. Car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas saisir ces paroles. Nous ne pouvons même pas être convaincus que nous méritons le juste jugement. Mais dans ta grâce, tu nous donnes cette parole et j'aimerais te prier, éternel Dieu, de toucher le cœur de tous ceux qui ont entendu ce message. Je te supplie, Seigneur, que cela ne puisse pas être sans effet. Qu'il n'y ait personne qui écoute ces paroles et qui se retrouve un jour coupé de toi pour l'éternité.
dans la souffrance. Oh, s'il te plaît, Seigneur, agis dans ta grâce et donne-nous aussi cette joie de nous réjouir de ce salut, de le partager autour de nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.